Bien. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous allons commencer déjà par mettre en place le conseil municipal des enfants, dont le mandat a été renouvelé. Et nous allons d'ores et déjà remettre leurs écharpes aux nouveaux élus. Alors, Jean-François, je te passe le micro si tu veux.
D'abord, je tiens à remercier les chefs d'établissement des écoles de Camaret pour leurs aides. Voilà, Madame Poix, Monsieur Boulinguet, Madame Arnaud, car ces élections des enfants se sont très très bien déroulées, dans un très bon état d'esprit, et ils ont plein de projets. Donc, quelques-uns ont été élus, d'autres n'ont pas été élus, mais tous ceux qui sont là ce soir ont promis d'être porte-parole de tous les enfants des écoles de Camaret. Et on tient à les écouter. Donc, j'appelle celui qui a le plus de voix d'abord. Mais après, il n'y aura pas un maire du conseil municipal des enfants. Ils sont tous au même niveau. Il y aurait parfois un ou deux porte-parole. D'accord ? Navarro César, du CM2 aux Amandiers. Zébo Thirion Maeva. En classe de CM2 aux Amandiers. Mademoiselle Makloufi Baya, en classe de CM1 aux Amandiers. Mademoiselle Leschave Naël, Monsieur Leschave Naël, CM1 Vendier. Alors, c'est le début, je ne les connais pas encore tous. Monsieur Roucouli Simon, classe de CE2 Mistral. Une nouveauté, on a élargi les élections des jeunes en classe de CE2 pour qu'ils puissent poursuivre le plus longtemps possible le conseil municipal des jeunes. Simon. Non, pardon. Impérère Mancipioni. CE2 Amandier. CM. Vous êtes là, Pietra Tessa. CE2 Amandier. Monsieur Chevrier Marco, CM1 Amandier. Guéroir Aubert Charles, CM2 Saint-Andéol. Barrière Vial Lucas, CM1 Saint-Andéol. Mlle Garcia Julie, CE2 Saint-Andéol. Et Mademoiselle Lebrun Manon, CMA Saint-Andéol. Une nouveauté. Le conseil municipal des jeunes sera animé par Jonathan. Ok, voilà. Et je remercie beaucoup.
Donc je remercie Jean-François Leroy et Jonathan Cerda d'avoir procédé à l'organisation de ce conseil municipal des enfants. Et je félicite les enfants d'avoir eu le courage de s'engager, de faire campagne, de s'exprimer en public. Et je les remercie pour le travail de recherche et de réflexion qu'ils ont fait, puisque donc leur rôle, ça va être de proposer des choses pour la commune, des projets pour la commune. Bravo et bon travail à vous, les enfants.
Alors, il y a, avec leur accord, il y a un porte-parole et une porte-parole qui vont vous dire un petit message. Donc, César.
Encouragez parce que.
Bonjour à tous. On m'a confié une mission de dire surtout des mots, des projets pour Camaret. Allongir une voie verte et après aménager un stade de foot en stade de rugby. Merci.
Bonjour, on nous a élus pour créer, pour aménager Camaret et pour l'embellir aussi. Et aussi on a prévu, pas prévu, mais de le comité de au parc de l'Aigle de faire un parcours de santé pour que on puisse faire du sport et qu'il y a plusieurs étapes et ça sera bien.
Merci de votre attention. Le conseil municipal des jeunes aura lieu environ une fois par mois, le mardi soir, vers 16h45 jusqu'à 17h30. Ça. Voilà, merci.
On a pas de question.
Bien, nous passons au conseil municipal des adultes. Nous allons procéder à l'élection d'un secrétaire de séance. Je propose monsieur Georges Point. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous fais état des procurations que j'ai reçues. Émilie Lagier a donné procuration à Christine Winkelmann. Laurent Arcusé a donné procuration à Marlène Thibault. Jean-Paul Montagnier a donné procuration à Georges Point. Et Stécie de Rosier m'a donné procuration. Je vous fais état aussi d'un certain nombre de remerciements. La famille Bruscolini nous fait part de ses remerciements pour les attentions que nous lui avons témoignées lors du décès de Maria Bruscolini. Emmanuel et David Mathieu ont été très touchés par notre attention et notre geste à l'occasion de l'adoption de leur fils. La paroisse de Camaret nous remercie pour le don que nous avons fait lors du loto de la paroisse du 17 janvier 2016. L'association syndicale libre du lotissement Les Tournesols nous remercie pour la mise en place d'un lampadaire entre les lots numéro 12, 13 et 14. Et enfin, là, je tenais à vous lire une lettre du chef d'escadron Charlotte Tournant, commandant la compagnie de gendarmerie d'Orange. Monsieur le maire, les bons résultats en matière de lutte contre la délinquance sur votre commune sont pour une grande part le fruit d'une collaboration et d'une coordination étroite entre la police municipale et la communauté de brigade de gendarmerie d'Orange. Je sais également l'importance que vous attachez à la sécurité de vos concitoyens. Je tenais à vous faire part de ma très grande satisfaction quant à l'action au quotidien de vos personnels de la police municipale et à la réactivité dont ils ont fait preuve, en particulier lors d'un vol commis le mercredi 13 janvier 2016 à 16h30. En effet, dès le signalement établi par la victime, les policiers municipaux se sont immédiatement projetés sur les lieux et par leur manœuvre d'initiative déterminante ont procédé à l'interpellation dans le temps du flagrant délit de deux auteurs de vol de truffes. Ainsi, j'attacherai du prix à ce que vous fassiez part à vos agents de mes félicitations les plus sincères pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve. Voilà. Alors, vous avez reçu le procès-verbal du dernier conseil municipal. Est-ce qu'il appelle de votre part des observations? Non. Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Et nous passons à l'ordre du jour proprement dit, avec... Mon premier point, le débat d'orientation budgétaire, rapporteur Sylvette Gilles.
Alors, au vu de l'analyse des résultats de l'exercice 2015, les résultats de clôture du budget principal se présentent comme suit. Un excédent de fonctionnement de 665 000 euros. Un excédent cumulé d'investissement de 274 000 euros, en tenant compte du déficit reporté de 2014 de 49 000 euros, soit une balance de clôture excédentaire de 939 000 euros. En section de fonctionnement pour les dépenses, nous avons 5 048 000 euros, soit plus 1,21% par rapport à 2014. La tendance à la stabilisation des dépenses de fonctionnement se confirme donc en 2015. En 2014, l'évolution était de 1,53% par rapport à 2013. Pour mémoire, les dépenses de fonctionnement ont connu une hausse de près de 13% entre 2010 et 2013, soit une moyenne de 4,5% d'augmentation par an. Vous avez en dessous un graphique qui montre la courbe ascendante depuis 2010 et qui tend à se stabiliser entre 2013 et 2015. On retiendra pour le détail la poursuite de la diminution des charges à caractère général au chapitre 11, de moins 1,58% par rapport à 2014, bien que ce chapitre soit lourdement grevé par l'entretien des bâtiments communaux vieillissants et de bâtiments récents qui présentent des malfaçons non négligeables. On constate une augmentation modérée des charges de personnel au chapitre 12, plus 2,61%. Elle s'élève à 2 896 000 euros. Les facteurs expliquant cette légère hausse sont les suivants. Revalorisation de 5 points de l'indice majoré de catégorie C au 1er janvier 2015. Les avancements d'échelons et de grades. Les astreintes de la police municipale et les heures supplémentaires. L'augmentation substantielle des dépenses d'assurance et des charges. Mais surtout, il faut tenir compte du recrutement annoncé au BP 2015 d'un quatrième agent de police municipale et du chef de cuisine centrale, sans oublier le coût en personnel des temps d'activité périscolaire reconduits en 2015 et qui ont de nouveau pesé sur le budget communal cette année. Pour les recettes de fonctionnement, on est à 5 713 000 euros, en hausse de 1,04% par rapport à 2014, malgré la perte de 107 000 euros entraînée par la nouvelle baisse de la DGF en 2015. Ce bon résultat est dû à l'optimisation des recettes, notamment des différentes subventions et participations, des diverses redevances d'occupation du domaine public, recettes liées aux services et prestations offerts par la municipalité, qui ont vu leur fréquentation augmenter. On tiendra compte également de l'augmentation du produit de la fiscalité directe due à l'effet base, puisque les taux ont été maintenus en 2015 comme en 2014. Dans un difficile contexte budgétaire et financier pour les collectivités territoriales, la commune dégage donc un excédent de fonctionnement de 665 407 euros et 1 centime. Cet excédent constitue l'autofinancement ou l'épargne brute du budget 2016 et sera versé à la section d'investissement en recettes avec couverture prioritaire de l'annuité d'emprunt, 234 000 euros en 2016, qui doit réglementairement être couverte par les ressources propres. Pour la section d'investissement, en dépenses, 1 045 000 euros, en recettes, 1 369 000 euros. Ce qui donne, après le report du déficit cumulé de 2014, moins 49 000 euros, un excédent de 274 000 euros. Compte tenu des restes à réaliser, en dépenses, 650 000 euros. En recettes, 246 000 euros. Les résultats de clôture en investissement, donc 274 000 euros plus 246 000 euros, moins 654 000 euros, donnent moins 133 640 000 euros. Le résultat définitif d'investissement est déficitaire, donc 233 640 euros. À noter les travaux de la phase finale du tour de ville qui était initialement prévu sur deux exercices budgétaires qui a été liquidé ou engagé à 77% sur le BP 2015, ce qui a permis leur avancée rapide. Le bilan et équilibre financier. Vous avez un tableau fourni par le Trésor public avec actifs, passifs, etc. Donc ça c'est purement technique. Un graphique avec les fonds de roulement et trésorerie. Donc au vu de ces chiffres, la commune dispose au 31 décembre 2015 d'un parfait équilibre financier. Les orientations 2016 en section de fonctionnement pour la troisième année consécutive. Troisième. Les dotations de l'État aux collectivités baisseront. Pour Camaret, en 2016, la DGF sera de 167 712 euros, soit une perte de 107 000 euros, presque moins 39% par rapport à 2015. Cette perte s'ajoute aux 141 167 euros déjà retirés en 2014 et 2015. En 2016, nous aurons donc perdu 248 000 euros de DGF par rapport à 2013. Au final, en 2017, la commune verra sa DGF diminuer de 347 000 euros. En 2013, elle s'est élevée à 415 879 euros, selon la source AMF. En dessous, un graphique qui montre effectivement la baisse significative de la DGF de 2013 jusqu'à 2017. Les efforts d'économie devront se poursuivre en 2016, avec comme objectif, après leur stabilisation, la diminution des dépenses de fonctionnement sur les exercices à venir. Les services municipaux devront continuer de maîtriser leur budget en 2016 comme en 2015. Les dépenses de fonctionnement pour les charges à caractère général au chapitre 11. La maîtrise des dépenses doit se concentrer tout d'abord sur ce chapitre. Cela nécessite une rigoureuse politique de réduction des consommations énergétiques, la poursuite des travaux d'amélioration des performances énergétiques dans nos bâtiments s'inscrit dans cette perspective. La négociation mutualisée des nouveaux tarifs en matière de fourniture d'électricité, appliquée au 1er janvier 2016, les tarifs pour le gaz ont été renégociés en 2014, permettra dès cette année de réaliser des économies dans ce domaine. Les dépenses de téléphonie feront également l'objet d'une attention particulière avec un audit fonctionnel et financier destiné à réduire notablement cette ligne budgétaire. Le personnel communal, au chapitre 12, pour 2016, il faudra encore tenir compte des paramètres, des mêmes paramètres que l'an passé, en rajoutant la revalorisation indiciaire au sein des catégories B. En 2016, les recrutements prévus à ce jour sont les saisonniers habituels, ainsi qu'un contrat aidé de 6 mois, financé à 60% par la mission locale, d'un agent pour l'équipe des espaces verts. Cependant, il faudra tenir compte de la présence sur l'année entière du 4e agent de police municipale, ainsi que du chef de cuisine. Les charges de gestion courante, au chapitre 65. Elles sont stabilisées en 2015. Il conviendra de poursuivre en ce sens cette année afin de les voir diminuer sur les prochains exercices. Elles comprennent en particulier les contributions obligatoires de la commune aux syndicats intercommunaux dont Camaret est membre, la participation communale au service départemental d'incendie et de secours à hauteur de 129 000 euros, comme en 2015, la subvention au CCAS de 74 000 euros, le forfait scolaire alloué à l'école privée Saint-Andéol, qui sera de 56 247 euros pour 2016. Les subventions aux associations se tiendront à un peu plus de 125 000 euros, sans compter les charges indirectes et les nouveaux services, convention radio-mix, mise à disposition de matériel, intervention des services municipaux, et les contributions aux divers syndicats. La contribution au FPIC devrait augmenter de 30 à 35%, 49 440 euros pour 2015, après une hausse de 42% par rapport à 2014. Les dépenses prévisibles liées aux intérêts d'emprunt seront de 61 454 euros. Les dotations aux amortissements, dépenses de fonctionnement au chapitre 42, s'établissent à 202 882 euros, mais elles trouvent, par une opération d'ordre, leur contrepartie en recettes d'investissement. L'objectif 2016 est de maintenir les dépenses réelles de fonctionnement autour de 5 millions d'euros. Les recettes de fonctionnement. L'essentiel de ces recettes est constitué par le produit fiscal, au chapitre 73. La revalorisation par l'État des bases fiscales n'est pas encore connue. Les taux communaux resteront identiques aux années antérieures, soit 8,30% pour la taxe d'habitation, 20,80% pour la taxe sur le foncier bâti, 57,11% pour le foncier non bâti. Ces taux sont dans la moyenne nationale et départementale de la strate. Ainsi, l'augmentation du produit fiscal ne proviendra que d'un effet base. Vous avez en dessous un tableau récapitulant l'évolution des bases entre 2012 et 2015. Le projet de loi de finances 2016 prévoyant que les bases fiscales augmenteraient de 1,01%, la recette de fiscalité 2016 peut être estimée à 1 680 000 euros. Concernant les autres recettes de fonctionnement, outre les recettes habituelles, on peut compter le montant de l'attribution de compensation versée par la communauté de communes à lieu et place de l'ex-taxe professionnelle, qui sera de 2 154 000 euros. La section d'investissement. Les dépenses. L'année 2015 a été une année de travaux importants. La phase finale du tour de ville, les travaux engagés en totalité sur 2015 alors que prévus initialement sur deux exercices, il reste environ 128 000 euros à liquider sur l'exercice 2016. Les travaux de gestion des eaux pluviales et de voirie, de la rue Alphonse Daudet, du chemin de la Dame et de la chapelle Cœur de Marie, pour plus de 161 000 euros. Pour 2016, des travaux ont déjà été réalisés, comme l'extension du parking de la Poste pour 11 213 euros. D'autres projets sont en cours de réalisation. La fin de l'aménagement de l'ancienne crèche, afin d'y accueillir une classe de l'école maternelle sous les Yadeaux, qui sera livrée pour la rentrée 2016, pour un coût prévisionnel de 150 000 euros. La construction de la salle polyvalente foot animation avec mise en conformité, accessibilité de l'accès principal au complexe pour un montant prévisionnel de 253 000 euros avec 90 000 euros de subvention. Plusieurs projets importants sont programmés et seront validés après arbitrage, parmi lesquels la réfection de la toiture de l'école maternelle, l'aménagement de l'ancien centre médico-social en un logement d'accueil d'urgence et deux appartements locatifs, la réfection du terrain et la mise en conformité électrique des bâtiments du motobol, le déport au poste de police municipale du central de vidéoprotection et sa mise à niveau informatique, la restauration d'œuvres d'art, tableaux de l'église paroissiale ainsi que la poursuite de la campagne de restauration des anciens registres paroissiaux, diverses réfections de voirie et acquisition foncière. Il faut aussi noter le montant prévisible de l'annuité en capital de la dette, soit 234 000 euros. Au total, les dépenses réelles d'investissement inscrites au BP 2016 devraient s'élever à environ 1,9 million d'euros. Les recettes d'investissement proviennent des ressources propres de la commune, de la taxe d'aménagement, des subventions sollicitées en 2015. À cela s'ajoute une subvention de 80 500 euros qui a été demandée à l'État pour, au titre de la DETR 2016 pour la rénovation de l'ancien centre médico-social. Les recettes proviennent également de la recette due au titre du FCTVA en 2016, 133 500 euros, et diverses opérations d'ordre entre sections pour un montant d'environ 400 000 euros. L'exercice 2016 va donc encore connaître des investissements importants qui seront réalisés sans augmentation des taux d'imposition, et ce, grâce à l'autofinancement dégagé par les économies de fonctionnement réalisées en 2015. L'analyse de la dette. Donc, l'encours de la dette au 31 décembre 2014 est de 372 euros par habitant pour une moyenne de la strate de 794 euros par habitant. Pour mémoire, au 31 décembre 2013, elle était de 421 euros par habitant. Suit un petit tableau de l'état de la dette. Un capital restant dû au 31 décembre 2015, 1 818 000 euros. Un capital restant à payer pour la période 2016, 234 000 euros. Et les intérêts à payer pour la période, 61 000 euros. En dessous également un tableau récapitulatif des emprunts à taux fixe et derrière les emprunts à taux variable. À savoir qu'il y a un crédit, un emprunt qui se termine au 1er avril 2016. Donc, notre dette peut donc être remboursée en 2,73 ans. Au vu de notre actuelle capacité d'autofinancement, la moyenne des communes de la même strate est de 4,6 ans.
Y a-t-il des questions, des observations ? Madame Thibault.
Bien. Merci, Madame Gilles, pour cette présentation. Je voulais, concernant les chiffres que vous rappelez chaque année, enfin depuis 2 ans, concernant les dépenses, vous dites pour mémoire, les dépenses de fonctionnement qui ont connu une hausse de près de 13% entre 2010 et 2013. Donc j'ai quand même quelques éléments à apporter concernant, je dirais, ce petit rappel que vous faites. Donc il faut quand même rappeler au Conseil et au Camaritois que ces hausses sont essentiellement dues. Ces augmentations sont étroitement liées au recrutement nécessaire pour la crèche, eu égard au taux d'encadrement, donc c'est-à-dire qu'il y a eu l'embauche de 3 auxiliaires puéricultrices, pardon, une animatrice et des animateurs titulaires pour le centre de loisirs pour encadrer et, je dirais, rendre ce centre de loisirs, je dirais, plein, un taux plein au maximum. Ensuite, au recrutement d'un agent de convivialité pour le centre partage et surtout par rapport à la municipalisation de la bibliothèque, donc l'emploi d'un agent qualifié. Ce qui serait juste de rajouter, Madame Gilles, par rapport à ce petit rappel, c'est en contrepartie les recettes liées aux services apportés à la population qui a connu une augmentation de plus de 13%. Voilà, moi je tenais à rétablir, voilà, je trouve que ça c'est juste de rappeler effectivement qu'il y a une hausse, dire pourquoi, mais en face il y a eu des recettes. Quand on pense que les recettes de la crèche ont été multipliées par 2 depuis la mise en place et à l'ouverture de la nouvelle crèche. Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme précision et je pense que c'était nécessaire. En tout cas, merci d'entendre note.
Quelques précisions par rapport aux dépenses de fonctionnement. Vous notez, vous dites, concernant le chapitre 011, vous pointez donc une baisse par rapport à 2014, et vous dites, enfin, de là il est écrit, bien que ce chapitre soit lourdement grévé par l'entretien des bâtiments communaux vieillissants et des bâtiments récents qui présentent des malfaçons non négligeables. Donc je voulais en savoir un petit peu plus et avoir une idée du coût engendré, d'une part, enfin surtout par, je dirais, les bâtiments récents, puisque les bâtiments plus anciens, par définition, ont besoin d'être régulièrement entretenu. En sachant, on en a parlé en commission des finances, que pour ce qui est des malfaçons sur les bâtiments récents, il existe des procédures un peu de recours, et j'espère qu'elles sont et qu'elles seront, si elles ne l'ont pas été, activées de façon active pour que d'une part ces malfaçons soient corrigées et surtout que la commune rentre un peu autant que possible dans son argent.
Alors, sur la précision, sur les chiffres, hein, les dépenses liées au bâtiment, on a au budget, donc enfin au compte administratif provisoire 2015, près de 42 000 euros qui ont été dépensés sur l'entretien des bâtiments. C'est une augmentation de 60% par rapport à l'année passée. parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions sur les différents bâtiments, et on a des contraintes de maintenance à hauteur de donc sur les bâtiments à hauteur de plus de 110 000 euros. Donc tout ça, ça fait, on est à près de 11-12% des dépenses du chapitre 11 sur les bâtiments municipaux. Concernant les garanties décennales sur les bâtiments récents, effectivement, on les met en œuvre quand elles sont encore en vigueur, évidemment, sauf que quelquefois, on se heurte à des difficultés, notamment sur la crèche, puisque on a un problème d'infiltration d'eau où on est encore... Alors, il y a une partie des infiltrations d'eau, on est encore en phase de recherche pour savoir d'où elles viennent, parce que le bâtiment est tellement complexe qu'on a du mal à trouver l'origine des fuites. Et par contre, il y a d'autres infiltrations d'eau qui sont, elles, identifiées et qui viennent du fait que lorsque les panneaux solaires ont été installés, l'installateur sous-traitant du vendeur de panneaux solaires a percé la membrane de la toiture. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas faire jouer la garantie décennale là-dessus, puisque ce sont des travaux qui ont eu lieu après la construction du bâtiment. Donc là, on est dans une phase assez juridique, assez complexe, puisque ce n'est même pas l'installateur des panneaux solaires, c'est un sous-traitant. Donc c'est une fusée là à plusieurs étages. Donc, bien évidemment, on essaye de récupérer l'argent qui est dû à la commune et aux contribuables camarétois, mais ça demande un certain nombre de procédures, de la même manière qu'on vient seulement d'obtenir un jugement tribunal administratif de Nîmes concernant les malfaçons de la cuisine centrale, de la rénovation de la cuisine centrale, où le tribunal administratif de Nîmes vient de donner raison à la commune de Camaret, et l'entreprise est condamnée à nous rembourser 33 000 euros sur les travaux, puisque celle-ci, on lui avait proposé une conciliation, elle ne l'a pas acceptée, donc on a poursuivi et on est en première instance, le juge nous a octroyé 33 000 euros. On verra si l'entreprise fait appel.
Oui, quant à moi, je voulais répondre à l'intervention de Madame Thibault. Je prends acte de vos arguments. Vous avez dû procéder à des recrutements, vous avez municipalisé un service. Mais je rappellerai que nous aussi, nous avons fait de même. Nous avons procédé à des recrutements. Nous avons municipalisé un service aussi, puis la restauration scolaire. Et pour autant, malgré tout, au bilan, on a une hausse des dépenses de fonctionnement qui est bien inférieure à la vôtre, hein, puisque nous, pour l'instant, par rapport à 2014, nous sommes à plus 1,21%, ce qui est quand même très faible. Malgré les recrutements, un policier municipal, un chef de cuisine, je ne sais plus ce qu'il y a eu d'autres comme recrutement, mais enfin, il y en a eu deux ou trois autres qui les emplois des TAP aussi, qui nous ont été imposés par l'État. Donc soit l'État nous a imposé ces recrutements, soit nous tenons nos promesses, en particulier en ce qui concerne le renforcement de la police municipale. En ce qui concerne la cantine, c'est une opportunité que nous avons eue. Comme nous ne sommes absolument pas idéologues en matière de gestion locale confiée à du privé ou à du public, nous sommes des pragmatiques et nous nous sommes rendus compte que la municipalisation de la cantine scolaire va nous permettre de réaliser 30 000 euros d'économie par an, ce qui est quand même pas négligeable du tout. Voilà, donc votre argument, je l'entends, hein, mais nous faisons la même chose et pour autant nous baissons davantage. Et lors du compte administratif 2015, nous allons avoir le chiffre précis des économies de fonctionnement que nous aurons réalisées. Mais nous en réaliserons d'autres, c'est absolument nécessaire. Y a-t-il d'autres interventions ? Monsieur Mengui.
Oui, merci. Alors, concernant vous avez indiqué le coût supplémentaire pour les temps d'activité périscolaire. Moi, j'aimerais bien avoir le coût de des recettes, en particulier le fonds d'amorçage qui a été reconduit en 2015. Est-ce que vous pourriez nous donner ce montant qui atténue effectivement en partie, je pense, le coût supplémentaire lié à l'embauche de le personnel encadrant.
Alors, on aura ses coûts et ses recettes au compte administratif, mais déjà, le coût, c'est environ 60 000 euros par an. Ça on le sait déjà. Hein. En ce qui concerne le fonds d'amorçage qui, heureusement, a été reconduit, là, c'est pareil, on en saura plus dans quelques semaines.
Donc, un petit mot quand même sur la baisse de la DGF. Parce que, effectivement, c'est quelque chose que, dont on parle souvent, et je trouve qu'on a une présentation, alors, un peu, parfois un peu exagérée, y compris à travers les graphiques. Bon, ceci dit, quand on regarde, alors, évidemment, avoir une baisse de DGF, c'est pas quelque chose qui est agréable, quelle que soit la commune. Ça a, à mon avis, plus d'impact dans des communes qui ont des ressources, des recettes fiscales et des ressources qui sont moins importantes. Mais si je me suis pas trompé, j'ai regardé que, en gros, on va perdre 107 000 euros en plus cette année sur un budget de recettes de 5 700 000. Si je me suis pas trompé, ça représente donc 1,88%. C'est pas la catastrophe que l'on présente, et c'est à peu près de cet ordre-là sur les trois exercices. Voilà, donc c'est pas agréable. D'ailleurs, on avait voté la motion, mais c'est pas non plus la catastrophe que l'on a tendance à vouloir présenter.
Chers collègues, permettez-moi de vous dire que votre présentation des choses est pour le moins caricaturale. Vous me dites que ça représente qu'une infime partie des recettes de fonctionnement, mais bien entendu, à partir du moment où une grande partie des masses financières d'un budget sont captives, si vous voulez, on ne peut pas les toucher. Donc, une politique municipale, la politique d'une équipe municipale, en fait, elle trouve ses financements, ses moyens financiers à la marge, vraiment à la marge. Aussi bien en ce qui concerne les recettes que les dépenses, ce sont des chiffres bruts qu'on ne peut que très peu modifier. Donc, quand on a une petite marge qui est amputée de 100 000 euros, eh ben, quand même, ça fait quelque chose, ça représente quelque chose de finalement important. C'est ça que je voulais dire.
Oui, mais moi, ce que, voilà. Après, les chiffres, ils sont là. Quoi. Donc, un côté 107 000 qui manque au budget de la commune sur quand même des recettes en 2015 estimées à 5 713 000 euros. Voilà.
Y a-t-il d'autres observations ? Eh bien, s'il n'y en a pas, comme vous le savez, ce débat ne fait pas l'objet d'un vote. Nous passons au point numéro 2, absence de rattachement des charges et des produits au 31 décembre. Rapporteur Sylvette Gilles.
La commune de Camaret-sur-Aigue est concernée par l'obligation de rattachement pour le budget primitif qui a pour finalité la production de résultats budgétaires sincères. Pour les dépenses, il s'agit des dépenses engagées avec services faits et non mandatés au 31 décembre. Pour les produits, il s'agit des recettes de fonctionnement non mises en recouvrement et correspondant aux prestations effectuées avant le 31 décembre. Le caractère obligatoire du rattachement des charges et des produits à l'exercice peut cependant faire l'objet d'aménagements lorsque les charges et les produits à rattacher ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence significative sur les résultats de l'exercice et leur sincérité. Il est demandé au conseil municipal de fixer pour le budget principal le seuil de rattachement des charges et des produits à hauteur de 1 000 euros.
Y a-t-il des questions ? Bon, c'est une délibération purement technique. Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Ah, pardon. Abstention de Martine Seller. Dossier numéro 3. Modification des tarifs de certains droits de place. Rapporteur Hervé Auriac.
vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l'article L2125-3, qui pose comme principe la non-gratuité de l'autorisation d'occupation du domaine public, vu la délibération numéro 2013 d'Elib 059 du 4 juillet 2013 relative à l'institution de droit de place et la délibération 2015 d'Elib 21 du 5 mars 2015 et les actualisant, considérant la nécessité de réviser les tarifs des droits de place dans le cadre de l'occupation temporaire du domaine public, il est proposé de modifier le tarif pour les cirques et de le fixer à 70 € par jour et par installation. Il est également proposé de modifier le tarif pour les commerces ambulants, notamment les camions de pizza ou autres, et de le fixer à 10 € par jour et par installation autorisée. Le règlement des redevances sera acquitté lors de la délivrance de l'autorisation d'occupation temporaire par la régie de recettes, droit de place, ou à défaut, par l'émission d'un titre de recette. Les autres tarifs restent inchangés, à savoir 40 € par jour et par installation pour les manèges et camions ou vente au déballage. Il est précisé que la délib numéro 2014, délib 075 du 18 septembre 2014, modifiant les tarifs du marché communal hebdomadaire, la délibération 2015, délib 40 du 24 avril 2015, modifiant les tarifs du marché des producteurs, et les délibérations du 27 mai 2003 et numéro 2009-97 du 27 août 2009, instituant les droits de place pour la fête foraine, restent inchangés. Il est donc demandé au conseil municipal d'instituer une redevance de 70 € par jour et par installation autorisée sur une dépendance du domaine public pour les cirques, d'instituer une redevance de 10 € par jour et par installation autorisée pour les commerces ambulants, notamment les camions de pizza ou autres, de dire que les tarifs relatifs au marché hebdomadaire, au marché des producteurs et aux emplacements de la fête foraine restent inchangés.
Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 4. Réfection de toiture de l'école maternelle La Souleillado. Demande de subvention auprès de l'État. Rapporteur Michel Lagarde.
Dans le cadre de sa politique de rénovation des bâtiments municipaux et plus particulièrement des établissements scolaires, la municipalité souhaite procéder à la réfection de la toiture de l'école maternelle La Souleillado. Ces travaux permettront d'assurer l'étanchéité de ce bâtiment qui subit régulièrement des fuites importantes lors des événements pluvieux. Ils assureront également un meilleur confort thermique de l'école par une isolation répondant aux normes actuelles en la matière. Le coût de ces travaux est estimé à 80 000 € hors taxes. Ce projet est éligible au programme exceptionnel de soutien à l'investissement local porté à la connaissance des communes de Vaucluse par un courrier de monsieur le préfet du département en date du 5 février 2016 pour des projets devant connaître un commencement d'exécution en cours de cette année. Ce programme prévoit une enveloppe financière concernant les projets de rénovation thermique. Vu la circulaire ministérielle du 15 janvier 2016, vu l'avis de la commission des finances réunie le 29 février 2016, vu le montant estimatif des travaux de 80 000 € hors taxes, vu le plan de financement prévisionnel, montant des travaux en euros hors taxes, travaux 80 000 €. Recettes en euros. Commune de Camaret-sur-Aigle, 16 000 €, 20%. Conseil départemental Vaucluse, 24 000 €, 30%. État soutien d'investissement public local, 40 000 €, 50%. Vu le budget de la commune, il est demandé au conseil municipal d'approuver le plan de financement prévisionnel de l'opération, de solliciter auprès de monsieur le préfet de région, par l'intermédiaire de monsieur le préfet de Vaucluse, une subvention à hauteur de 40 000 € pour la réalisation du projet décrit ci-dessus, d'autoriser monsieur le maire à signer toutes ces pièces afférentes à ce dossier.
Merci. Y a-t-il des questions ?
Ben oui.
Vous voyez, ce que l'État retire d'un côté, il
donne. Si c'était vrai, ça saurait, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il faut rajouter ce qui nous met comme charge supplémentaire, par exemple, les TAP. Y a-t-il des questions ?
Oui.
Y a-t-il des questions ?
Non.
Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Demande de subvention auprès du conseil départemental de Vaucluse pour l'équipement informatique de la bibliothèque. Rapporteur Elvire Théoki.
La bibliothèque souhaite développer son offre multimédia afin de répondre aux nouveaux usagers et de proposer un service de qualité à son public. Pour ce faire, il est nécessaire d'acquérir une station informatique proposant aux usagers la consultation d'Internet, de CD-ROM et d'outils bureautiques. Ce matériel récent offrira en outre la possibilité pour la bibliothèque de promouvoir ses ressources numériques. Présentation du catalogue informatique, accès au portail de la bibliothèque départementale, animation liée au numérique. Le conseil départemental finance l'équipement multimédia des bibliothèques afin de favoriser l'appropriation des nouvelles technologies. L'aide financière du département s'élève à 1 500 euros. La participation de la commune doit s'élever à minima à 20% de la dépense. Donc le budget prévisionnel de l'opération est le suivant. En dépenses, la station informatique coûte 1 875 euros. En recette, nous avons le conseil départemental du Vaucluse à hauteur de 81%, soit 1 500 euros. Et la communauté de Camaret-sur-Aigle à hauteur de 20%, soit 375 euros, ce qui nous donne un total de 1 875 euros. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention auprès du conseil départemental de Vaucluse et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Avez-vous des questions ? Pas de questions, alors je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Relais parents assistante maternelle, nouvelle convention de partenariat intercommune, rapporteur Jean-François Leroy.
Relais parents assistante maternelle, nouvelle convention de partenariat intercommune. Dans le cadre du contrat enfance jeunesse CEJ signé entre la Caisse d'allocation familiale, la Mutualité sociale agricole et la commune de Camaret-sur-Aigle, il a été prévu la mise en place d'un relais parent-assistante maternelle sur la commune, RAM. Le diagnostic établi sur l'ensemble du territoire intercommunal à l'occasion du nouveau CEJ 2016-2019, en cours d'élaboration, fait ressortir le besoin toujours actuel de déployer ce service sur une partie du territoire de la commune, de la communauté de communes Aigues-Ouvèze en Provence. Une convention ayant pour objet de définir les modalités d'organisation et de financement du RAM communal a été approuvée en séance du conseil municipal en date du 27 mai 2010. Une convention de partenariat entre les communes intéressées a été signée le 27 mars 2013 pour une application prévue jusqu'au 31-12-2015. En accord avec les partenaires CAF et MSA, les représentants des communes au comité de pilotage RAM ont validé le projet de nouvelle convention pour la période 2016-2019, en même temps que le projet RAM pour les années à venir. Désormais, l'agent affecté au sein du relais parent-assistante maternelle a pris ses fonctions à temps complet sur cette structure depuis le 1er janvier 2016, sur les préconisations de la Caisse d'allocation familiale. La convention précise également les modalités de permanence sur les communes extérieures ainsi que les modifications nécessaires en ce qui concerne le quorum et la représentation des différentes communes membres au sein du comité de pilotage RAM. La convention de partenariat prévoit en outre de maintenir le comité RAM chargé de suivre son fonctionnement, évaluer les actions et en fixer le budget. La commune de Camaret-sur-Aigle demeure commune coordinatrice. Chaque commune est appelée à participer financièrement au fonctionnement du relais selon la règle de la proratisation fixée comme suit. La commune de Camaret-sur-Aigle perçoit la prestation du service ordinaire RAM et la prestation du service CEJ. Une fois ces prestations déduites, le reste à charge est réparti entre toutes les communes en fonction du nombre d'assistantes maternelles agréées par le conseil départemental. Un bilan d'exercice est établi annuellement. Il convient par conséquent de prendre en considération ces nouveaux éléments et de présenter une convention actualisée. Vu le budget prévisionnel 2016, vu le projet de convention, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat telle qu'annexée, d'autoriser M. le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Vous avez donc en annexe le document.
Merci. Y a-t-il des questions ? Madame Thibault.
Oui, simplement une question concernant le comité de pilotage qui doit se tenir, enfin qui se tient annuellement. Aujourd'hui, nous n'avons pas de compte rendu. Donc, est-ce qu'on peut avoir le compte rendu à la fois du comité de pilotage du réseau d'assistantes maternelles et le comité de pilotage du lieu d'accueil enfants-parents pour connaître un petit peu le.
Tout à fait, il n'y a pas de, voilà. Y a pas de souci.
Voilà, oui, je pense que ça serait important parce que le comité de pilotage s'est réuni toutes les années, là, depuis.
Ouais, il s'est réuni, oui, déjà deux fois. Ouais,
parce qu'on n'a aucun compte rendu. Donc, voilà, c'est ce que je demande aujourd'hui.
Ce sera fait. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 7. Approbation d'une convention d'enlèvement des véhicules pour le stationnement gênant ou en état d'épave situé sur le domaine public. Rapporteur Lionel Muret.
Conformément au Code général des collectivités territoriales, aux articles 325 et suivants du Code de la route, la fourrière relève de l'autorité du maire qui en désigne le gardien sur la liste des gardiens agréés par le préfet si le local ou le terrain appartient à la commune ou si elle en dispose. En l'absence de terrain communal ou le local à disposition, il est possible d'établir une convention d'enlèvement des véhicules en stationnement gênant ou en état d'épave situé sur le domaine public avec un prestataire disposant d'un agrément préfectoral en tant que gardien de fourrière. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer une convention d'enlèvement des véhicules en stationnement gênant ou en état d'épave situé sur le domaine public avec M. Tride, représentant la société d'exploitation Magic Auto, dont le siège se situe à Piolenc, 84 420, RN7, ZAC du Crépon Sud, et disposant d'un agrément préfectoral en tant que gardien de fourrière du 17 décembre 2015 au 16 décembre 2020. D'autoriser M. le maire à engager des dépenses afférentes aux frais d'expertise pour le classement des véhicules non réclamés par leurs propriétaires conformément au texte en vigueur.
Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 8. Bilan de la concertation et arrêt du plan local d'urbanisme. Rapporteur Christine Winkelmann.
Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L153-14 et L103-6, vu la délibération en date du 31 mars 1993 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols valant l'élaboration du plan local d'urbanisme. Vu la délibération en date du 24 mars 2004 valant l'élaboration du PLU et précisant les modalités de la concertation de la population. Vu la délibération en date du 2 juillet 2015 qui actualise les motivations de la mise en révision du POS. vu la délibération en date du 2 juillet 2015 qui retire la délibération 2012-80 du 18 octobre 2012 et définit les modalités complémentaires de concertation. Considérant qu'un débat a eu lieu le 29 juillet 2010 au sein du Conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD. La concertation de la population s'est déroulée en plusieurs phases, et ce tout au long de la procédure. En 2013, une réunion publique et une exposition publique se sont tenues avec registres mis à disposition du public. La réunion publique a eu pour objectif de présenter la méthodologie de l'élaboration d'un PLU, ainsi que les différents éléments et principes que le conseil municipal doit intégrer et prendre en compte pour répondre aux objectifs de la loi. Elle a également permis de présenter d'une part les grands éléments du diagnostic communal et d'autre part d'expliquer les grands axes du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, retenu par la municipalité de l'époque. La première exposition publique a permis de mettre à la disposition du public les projets de zonage, de règlement, d'orientation, d'aménagement et de programmation du PLU, ainsi que les justifications des choix opérés afin que chacun puisse prendre connaissance de la traduction réglementaire du PADD. Cette concertation a permis aux habitants, d'une part, de comprendre et mieux connaître cet outil d'aménagement et d'urbanisme qu'est le PLU, ainsi que le projet alors présenté, et d'autre part, de formuler des remarques et observations sur les documents présentés. Des observations ont, à l'époque, porté sur des points de forme concernant le projet du PLU. Des remarques ou des questions ont été émises concernant les options de développement alors retenues. Des remarques ont été formulées concernant l'adéquation entre les projets de travaux d'extension de réseaux d'assainissement et les règles d'application au secteur concerné. La question de l'impact du PEB, le plan d'exposition bruit, a aussi été soulevée. Des craintes et questions ont également été formulées quant au mode d'urbanisation défini par les orientations d'aménagement qui prévoient la réalisation d'opérations d'aménagement d'ensemble avec une diversification des formes d'habitat. Dès avril 2014, la nouvelle municipalité a repris le dossier du PLU qui n'avait pas évolué depuis les conclusions émises par le commissaire enquêteur du 24 mai 2013 suite à l'enquête publique qui s'était déroulée le 25 mars au 26 avril 2013. Les remarques ou avis défavorables émis par Monsieur le Préfet de Vaucluse ainsi que les réserves aux avis défavorables du commissaire enquêteur suite à l'enquête publique et certaines remarques de riverains lors de la première concertation ont dès lors été prises en compte et le projet amélioré, affiné en conséquence. Prise en compte de la zone C du PEB sur la route d'Orange. Retrait du pastillage en zone agricole, intégration des corridors écologiques et environnementaux au bord de l'Aigle et zone Nature 2000, mise à jour des annexes sanitaires, mise en cohérence avec la réalité urbaine et certains secteurs d'orientation, d'aménagement et de programmation. À la deuxième exposition publique, les observations ont été sensiblement moins nombreuses. Certaines ont porté sur des points déjà évoqués lors de la première concertation. Des remarques ont été formulées concernant la retranscription sur le PLU des conclusions de l'étude hydraulique. Des échanges ont eu lieu et ont permis aux riverains de mieux appréhender les dispositions mises en place. Des craintes et des questions ont également été formulées quant au mode d'urbanisation défini par les orientations d'aménagement et de programmation OAP qui prévoit la réalisation d'opérations d'aménagement d'ensemble, ce qui a permis d'expliquer que l'objectif des OAP est d'assurer un aménagement cohérent et maîtrisé de certains secteurs. Ces OAP ont été précisés en fonction des remarques formulées afin d'éviter une urbanisation anarchique et ne s'intégrerait pas dans le tissu urbain et paysager existant. L'objectif de la municipalité étant de classer en zone constructible les secteurs permettant d'assurer un développement cohérent du village, en veillant à assurer notamment une adéquation entre la superficie des zones constructibles et le nombre de logements nouveaux souhaités dans le projet communal, tout en respectant les principes législatifs et réglementaires qui s'imposent à la commune pour l'élaboration d'un PLU. Enfin, des observations d'ordre personnel ont été aussi formulées. Elles ont été analysées au regard du projet de développement retenu par la municipalité, sans pour autant remettre en cause l'économie générale du projet. La cohérence entre les deux démarches du PLU et du schéma d'assainissement a aussi été expliquée. Concernant le PEB, il a été rappelé qu'il s'agit d'un document qui s'impose à la commune, qui se doit d'en intégrer les règles dans le PLU. L'ensemble de la concertation a donc permis d'aboutir à un projet adapté au territoire de Camaret-sur-Aigle et tenant compte des réalisations urbaines, structurelles et environnementales locales. Vu le projet du plan local d'urbanisme et notamment le projet d'aménagement et de développement durable, le rapport de présentation, les documents graphiques, le règlement et les orientations d'aménagement et de programmation et les annexes. Vu les phases de concertation menées en mairie, réunion publique le 3 avril 2012, registre et exposition publique le 20 juin 2012 au 27 juillet 2012, registre et exposition publique du 30 novembre 2015 au 11 décembre 2015. Vu l'avis de la commission d'urbanisation en date du 1-3-2016, considérant que le projet du plan local d'urbanisme est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques associées, considérant le bilan de la concertation tel que précisé ci-dessus, il est demandé au conseil municipal d'approuver le bilan de la concertation, d'arrêter le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Camaret-sur-Aigle tel qu'il est annexé à la présente. De préciser que le projet plan local d'urbanisme sera communiqué pour avis à Monsieur le Préfet, au Président du Conseil Régional, au Président du Conseil Départemental, aux représentants des chambres consulaires, métiers, commerce, industrie agricole, au Président de l'EPCI, compétence en matière de PLH, communauté des communes, au Président du EPCI chargé du suivi d'un SCOT, limitrophe lorsque la commune n'est couverte qu'aucun SCOT, Président du SCOT du bassin de vie d'Avignon, au Directeur du CRPF, Centre Régional de la Propriété Forestière, au Directeur de l'INOA, Industrie nationale d'origine et de la qualité. La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et mention de cet affichage sera publiée dans un journal diffusé dans le département. Le dossier sera tenu à disposition du public en mairie.
Merci. Y a-t-il des questions ou des observations ? Madame Thibault.
Oui, quelques questions concernant effectivement donc la fin de ce PLU. Je voulais savoir concernant les orientations d'aménagement et de programmation sur donc des parcelles importantes. Qu'est-ce qui a été retenu par rapport à l'enquête publique, par rapport à l'aménagement de ces zones-là ? Est-ce qu'il y a la mixité en termes d'habitat a été retenu ou éliminé? Voilà simplement la question que je pose par rapport à l'enquête publique, aux résultats et à la concertation, la deuxième concertation publique. Ensuite, je voulais savoir si il y avait des ouvertures de zones à construire, je parle de zones agricoles, en dehors des zones constructibles restantes sur Camaret. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu vraiment de grandes modifications par rapport au PLU qui était en cours et non finalisé?
Écoutez, en ce qui concerne la mixité dans les OAP, oui, une certaine mixité est maintenue, sachant que vous avez posé aussi la question des modifications que nous avons apportées. Il s'agit essentiellement du type d'habitat que nous souhaitons, ou plutôt que nous ne souhaitons pas, C'est-à-dire que nous souhaitons garder son caractère à notre village, préserver son identité, son aspect, son caractère agréable, et donc nous avons interdit les étages au-delà du R+1, par exemple. Voilà. C'est ce que nous avons souhaité faire. En revanche, en ce qui concerne la mixité, elle est pour maintenue. Ça, il y a pas de souci là-dessus. De toute façon, la plupart du temps, elle nous est imposée. Et en ce qui concerne le passage en constructibilité des zones agricoles, là, bien entendu, nous ne nous y sommes pas aventurés, sachant que nous avions toutes les chances de mettre en danger l'ensemble du projet de PLU. Donc même si nous pensons que dans une certaine mesure, notamment les enfants d'agriculteurs devraient pouvoir s'installer sur l'exploitation familiale, pour l'instant ce n'est pas possible par la réglementation. Il est par contre possible, vu l'évolution de la dite réglementation, de procéder à un certain nombre d'extensions, d'aménagements sur les parcelles agricoles, à condition que ces extensions ou ces petites modifications soient justifiées par l'exploitation elle-même, l'intérêt de l'exploitation, oui, en lien avec l'exploitation. Oui. Et pas plus, et en plus la superficie est limitée effectivement à 50 mètres carrés.
Tout à fait, oui, mais c'est effectivement, on parlait à l'époque de pastilles, on avait mis nous en place le pastillage, mais qui a été retiré par rapport, effectivement, au débordement qu'il y a pu y avoir avec le pastillage. Effectivement, on avait donné cette orientation pour permettre justement aux agriculteurs, aux jeunes agriculteurs, de pouvoir s'installer et surtout apporter une diversification en termes d'activité, parce qu'on connaît les difficultés des agriculteurs, donc c'était leur permettre de créer des gîtes, de diversifier leur agriculture et voilà, donc de pouvoir...
Oui, mais sachez que ce sont des...
Mais ça, maintenant, il y a de nouvelles réglementations.
Ce sont des préoccupations que nous partageons pleinement. Mais là, vu la réaction du préfet à votre projet du PLU, nous pensons que nous ne pouvions absolument pas persister dans cette voie pour l'instant. Ce qui n'empêchera pas ensuite, au fur et à mesure, de faire évoluer le PLU par le biais de modifications ou de révisions et de parler avec les services de l'État, leur faire comprendre que dans certains cas, il est quand même souhaitable de pouvoir permettre certaines constructions.
Oui, effectivement, je reviens sur le pastillage, nous l'avions mis tout en sachant que c'était une mesure qui allait être supprimée. Mais enfin bon, voilà, c'était pour apporter notre soutien aux agriculteurs. Par rapport, tu avais quelque chose? Non, pas. Donc par rapport à ça, effectivement, moi je suis ravie de l'arrêt du PLU. Nous sommes aussi ravis que vous ayez conservé donc les orientations concernant le PADD, qui est conforme, je dirais, à une réglementation imposée par les services de l'État sur en particulier les lois Grenelle 1 et 2 et tout le reste. Donc voilà. Donc nous allons voter pour donc l'arrêt de ce plan local d'urbanisme avec grand plaisir. Voilà. Merci.
Merci. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Madame Sauvera, exprimez-vous dans le micro.
Par la technique, pratiquement à la fin du dossier, vous marquez que le PLU est annexé à la présente. Il n'est pas annexé, là. Il est consultable. Voilà, non, parce que...
Oui, votre phrase est impropre. Il est consultable, parce que sinon, ça fait un pavé. Et comme nous faisons des économies dans le budget de fonctionnement...
Bon, d'accord, c'est pas de souci.
Très bien. Eh bien, je vous remercie. Je mets aux voix qui est contre et qui s'abstient. Adopté à l'unanimité, ce dont je vous remercie. Dossier numéro 9. Majoration de la taxe d'aménagement pour construction illégale. Rapporteur Christine Winkelmann.
Merci. Monsieur le maire indique que pour financer les équipements publics de la commune, la taxe d'aménagement a été mise en place en remplacement de la TLE, taxe locale d'équipement, et de la PAE, participation pour aménagement d'ensemble, au taux de 3,5%. En outre, conformément au projet d'aménagement et de développement durable adopté par la délibération du Conseil municipal 2010-85 en date du 29 juillet 2010 et dans la perspective du futur plan local d'urbanisme, il a été autorisé les exonérations suivantes. dans la limite de 50% de leur surface excédente 100 mètres carrés, les surfaces des locaux à usage habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au deuxième de l'article L331-12 et qui sont financés à l'aide d'un prêt ne portant pas d'intérêt prévu à l'article L31-10-1 du Code de la construction et de l'habitation. Logement finance avec le PTZ. Dans la limite de 50% de leur superficie, les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés. Dans la limite de 50% de leur surface, les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques. En effet, la commune étant dotée d'un plan d'occupation des sols, la taxe d'aménagement s'appliquait de plein droit au taux de 1%. La commune pouvant toutefois fixer librement, dans le cadre des articles L331-14 et L332-15 du Code de l'urbanisme, un autre taux. En outre, elle disposait de la possibilité de décider d'un certain nombre d'exonérations conformément à l'article L331-9 du même code. Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L331-1 et suivants, aujourd'hui, il est proposé de mettre en place une pénalité de 80% du montant de la taxe en cas de construction sans autorisation ou en infraction des obligations résultant d'une autorisation du droit des sols. Il est demandé au conseil municipal d'instituer la pénalité de 80% du montant de la taxe en cas de construction sans autorisation ou en infraction des obligations résultant de l'autorisation. De maintenir sur l'ensemble du territoire communal le montant institué de 3,5% ainsi que les exonérations autorisées. De lire que le taux et les exonérations pourront être modifiés tous les ans. La précédente délibération sera transmise au service de l'État chargé de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant son adoption.
Merci. Y a-t-il des questions ? Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 10. Modification du tableau théorique des effectifs, création de postes permanents et suppression de postes. Rapporteur Antonio Muga.
Vu l'article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, vu la délibération du 19 novembre 2015 établissant le tableau théorique des effectifs de la commune de Camaret-sur-Aigle, vu le budget de la commune, vu les dispositions statutaires applicables aux différents agents de la commune en matière d'évolution de carrière, considérant qu'il est nécessaire de recourir à l'emploi d'agent titulaire, pour le service administratif et que cet agent exercera à titre principal les fonctions d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps complet, considérant l'intégration au tableau théorique des avancements de grade proposés en commission administrative paritaire du 8 décembre 2015 et du 22 mars prochain, oui, les propositions de M. le maire, il est demandé au conseil municipal d'accepter la création des postes budgétaires suivants. Un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps complet pour le service administratif. D'accepter la suppression des postes suivants. Deux postes d'adjoint technique principal de deuxième classe. Un poste d'auxiliaire de puériculture territoriale principale de deuxième classe. Un poste d'assistant de conservation du patrimoine principal de deuxième classe. Un poste d'éducateur territorial de jeunes enfants. D'accepter le nouveau tableau théorique des effectifs tel qu'annexé à la présente délibération.
Merci. Y a-t-il des questions ? Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Y a-t-il des questions diverses ? Monsieur Mengui.
Je voudrais savoir s'il est possible de profiter du conseil municipal pour acter les remplacements suite au départ de Véronique Chomel du conseil municipal dans les différentes commissions. Est-ce qu'on peut l'acter là en séance ?
C'est-à-dire,
concernant la commission, je prends un exemple, commission relative à la jeunesse, au sport et à la vie associative, Véronique Chomel siégeait, donc
donc c'est Martine Sylla qui la remplace automatiquement.
Non. Alors justement, non, voilà, on voudrait faire des modifications également. Est-ce qu'on préférait qu'on fasse un courrier ou est-ce qu'on peut l'acter ce soir? Ça prendra 5 minutes.
Non, je préférais l'acter parce que je vous rappelle que je préférais un courrier, je vais dire. Parce que je vous rappelle que nous avons eu la souplesse de considérer que lorsque le titulaire n'était pas là, n'importe quel membre du groupe, de votre groupe, pouvait participer à quelque commission que ce soit. Donc de toute façon, c'est un petit peu votre organisation interne hein, qui doit jouer en la matière. Si Mme Seller ne veut pas siéger dans toutes les commissions dans lesquelles siégeait Mme Chomel, je peux comprendre, mais vous avez de toute façon la possibilité de vous remplacer mutuellement.
Oui, c'est pour l'envoi des convocations, par exemple.
C'est pour les convocations, d'accord. Ouais. Bon. Alors, prochain conseil municipal, le mardi 29 mars. Mardi 29 mars, et attention, c'est un mardi, et c'est pas un jeudi. Ne vous faites pas piéger. 19h. Ben, je vous souhaite une bonne soirée.